Merci d'avoir choisi Europe 1, il est 22h. C'est l'heure du journal, Sophie Tussaud.
Ce port du masque sera systématique de la part de tous les élèves, à partir de l'âge du collège, et non pas seulement lorsqu'il n'y a pas de distance physique.
Port du masque, date, protocole sanitaire. Jean-Michel Blanquer a détaillé ce soir les mesures prises par le ministère de l'Éducation pour la rentrée scolaire. Les détails dès le début de ce journal. Emmanuel Macron et Angela Merkel réunis au fort de Brégançon. Aujourd'hui, le président et la chancelière allemande ont abordé les dossiers chauds de la rentrée. Julian Assange demande à nouveau l'asile politique en France, un dossier sensible à traiter pour Éric Dupond-Moretti et qui était, il y a encore quelques moi, l'avocat du fondateur de Wikileaks.
C'est le moment. On a Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, et ça, c'est quelque chose qui est inespéré pour Assange.
Joe Biden sera dès ce soir officiellement le candidat démocrate à la Maison-Blanche pour la présidentielle de novembre. Nous irons dans le Delaware, où l'ancien vice-président doit prononcer son discours. L'Université d'été des Verts, après leur succès retentissant au municipal, les esprits sont dorénavant tournés vers la présidentielle de 2022. Les joueurs du PSG préparent la finale de la Ligue des Champions. Kylian Mbappé, rétabli, est revenu sur sa blessure qui a failli l'empêcher de vivre la compétition.
Le soir de la blessure à Saint-Etienne, je pensais que c'était mort. J'ai pleuré toute la nuit, mais voilà, le fait d'être revenu contre l'Atalanta, d'avoir aidé l'équipe à se qualifier, c'était un grand plaisir.
À la météo, attention au coup de vent sur la Bretagne, nous dira Anissa. Également dans votre journal, vos deux rendez-vous de l'été, les conseils de lecture de Stéphane Place, la bonne idée de François Claus, sans oublier les unes de la presse de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Bonsoir à tous. Cela fait plusieurs jours que de nombreuses voix s'élèvent pour réclamer un report de la rentrée scolaire. Pour adapter le protocole sanitaire alors que l'épidémie repart à la hausse, à deux semaines de la rentrée des classes, Jean-Michel Blanquer s'est exprimé ce soir au journal de 20h sur France 2. Victor Dolande, le ministre de l'Éducation, a été clair. La rentrée des classes ne sera pas reportée.
Non, Jean-Michel Blanquer a été catégorique. La rentrée scolaire se fera bien le 1er septembre prochain. Pas de report possible. L'éducation n'est pas une variable d'ajustement, a-t-il expliqué. Sur le protocole sanitaire, le ministre a apporté un seul changement sur les masques. Désormais, les élèves de plus de 11 ans devront le porter systématiquement.
Ce que nous avons ajouté par rapport à ce que nous envisagions début juillet, c'est que ce port du masque sera systématique de la part de tous les élèves à partir de l'âge du collège et non pas seulement lorsqu'il n'y a pas de distance physique.
Masque obligatoire également pour tous les enseignants. Ces masques leur seront fournis par l'éducation nationale. Pour ce qui est des élèves, Jean-Michel Blanquer estime que c'est une fourniture comme une autre. Ils devront donc en avoir tous les jours. Enfin, si un cas de coronavirus est signalé dans une classe, le ministre privilégie la doctrine du cas par cas en collaboration avec les autorités sanitaires locales. Il pourra donc être décidé de fermer une classe ou une école. Il restait tout de même une inconnue sur l'ouverture des cantines à la rentrée scolaire. Là aussi, Jean-Michel Blanquer a tranché. Elles seront ouvertes dès le 1er septembre prochain avec des groupes d'élèves qui se succéderont pour éviter de trop grands rassemblements dans les réfectoires.
Merci Victor Dolande. La France a dépassé ces dernières 24 heures les 4700 nouveaux cas de contamination. C'est 1000 de plus qu'hier, une progression inédite depuis le mois de mai. Le nombre de malades hospitalisés est également en hausse. Il y a toutefois des perspectives raisonnables d'obtenir un vaccin contre le coronavirus dans les prochains mois. C'est ce qu'affirmait tout à l'heure Emmanuel Macron.
On ne va pas mettre nos pays à l'arrêt, mais on va devoir vivre avec le virus en veillant à ce qu'il ne se propage pas, et en particulier, ne se propage pas plus vite et ne touche pas les personnes les plus âgées qui sont, on le sait, les plus fragiles. Et l'un des défis qui est le nôtre, c'est de voir comment on gère ces foyers infectieux lorsqu'ils sont découverts. Si nous avons un foyer infectieux qui est découvert ici à Brégançon, nous, ce qui est le plus important, c'est d'éviter qu'on aille contaminer tout autour. Et ça commence à la sortie de ce fort. Mais ça n'a aucun sens, si on a un foyer infectieux ici, de fermer toutes les frontières françaises. Or, trop souvent, on a réagi comme ça, à l'échelle nationale et de nos frontières. Et donc, ce que nous voulons faire, c'est d'avoir une homogénéité, une coordination de gestion de l'épidémie par foyer infectieux, pour qu'on puisse avoir les mêmes mesures de restriction de la circulation des personnes, de fermeture, quand on a un foyer épidémique qui est identifié, pour permettre ensuite d'avoir les garanties entre États membres et d'éviter de tout rebloquer.
Emmanuel Macron qui s'est exprimé depuis le fort de Brégançon à l'occasion d'une conférence de presse commune avec Angela Merkel. C'est la première fois depuis 35 ans qu'un chancelier allemand était invité dans la résidence d'été des présidents français. Un rendez-vous studieux pour aborder les dossiers chauds de la rentrée, parmi lesquels la crise en Biélorussie. Emmanuel Macron propose une médiation de l'Union européenne en incluant la Russie. Autre sujet de préoccupation commun entre Emmanuel Macron et Angela Merkel. L'état de santé du principal opposant à Vladimir Poutine. Alexei Navalny est entre la vie et la mort. Paris et Berlin ont offert toute aide médicale. Emmanuel Macron s'est même dit prêt à lui offrir l'asile politique. Un avion médicalisé envoyé par une ONG allemande va décoller ce soir pour la Russie. Le vice-directeur de l'hôpital où se trouve Alexei Navalny n'a pas donné quant à lui plus de détails sur les raisons de son coma.
Le diagnostic n'est pas clair encore. On a réussi à le stabiliser. Et on a une vision clinique globale de son état. On estime que l'on a tout fait correctement depuis le début. Naturellement, les traitements sont en cours 24 heures sur 24. Il est en soins intensifs sous surveillance permanente.
Le vice-directeur de l'hôpital où se trouve actuellement l'opposant Alexei Navalny. Trois jours après le coup d'État au Mali, les dirigeants de la CEDEAO réunis en sommet par visioconférence aujourd'hui. Ils réclament le rétablissement d'Ibrahim Boubacar Keïta comme président du pays. La junte, de son côté, annonce qu'un président de transition sera mis en place, soit un civil, soit un militaire. C'est un dossier qui s'annonce sensible à traiter pour le nouveau garde des Sceaux. Le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, demande à nouveau l'asile politique en France. Seulement, Éric Dupond-Moretti était il y a encore quelques mois son avocat et il plaidait à l'époque pour son asile, Justin Morin.
Effectivement, au nom de la liberté de la presse, c'était juste avant le confinement, Éric Dupond-Moretti dénonce alors publiquement la peine de son client. Elle est indigne, insupportable, dit-il, et contraire à l'idée que l'on peut tous se faire des droits de l'homme. Difficile de faire plus convaincu, l'association de défense des détenus Robin des Lois cherche donc à en profiter. C'est elle, soutenue par le père de Julian Assange et son équipe d'avocats, qui aujourd'hui interpelle le garde des Sceaux. Le but, qu'il appuie cette demande d'asile politique auprès d'Emmanuel Macron, le président qui a le pouvoir d'offrir le statut de réfugié, rappelle Emmanuel Ludo. C'est l'avocat de l'association Robin des Lois.
C'est le moment. On a Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, et ça c'est quelque chose qui est inespéré pour Assange. Son statut a changé, bien évidemment, mais l'homme reste le même. C'est quelqu'un qui a les droits de l'homme dans son ADN, c'est quelqu'un qui ne reste pas insensible à une situation comme ça. Donc je crois qu'il va effectivement saluer l'opportunité qui s'offre à lui et qui s'offre au gouvernement. Je crois que c'est le moment ou jamais. J'ai peur qu'après il soit trop tard.
Du côté du cabinet du ministre, on rappelle qu'Éric Dupond-Moretti a quitté son cabinet d'avocat, qu'il s'est mis en retrait de tous les dossiers en cours. Quant à la demande de l'association qui souhaite rencontrer le ministre, elle sera étudiée.
Justin Morin, et je vous rappelle que Julian Assange est pour l'heure toujours emprisonné en Grande-Bretagne en attendant une éventuelle extradition vers les États-Unis. Aux États-Unis où se déroule en ce moment la convention démocrate, Joe Biden deviendra officiellement dans le courant de la nuit prochaine le candidat démocrate à la Maison-Blanche. Il doit prononcer le traditionnel discours de clôture dans lequel il acceptera solennellement la tâche qui lui est confiée. Un discours prononcé en visioconférence depuis chez lui, dans le Delaware, où vous vous trouvez pour Europe 1, Xavier Yvon.
Oui, alors ça sera depuis le Chase Center, le centre de convention de Wilmington devant lequel je me trouve. Enfin, je suis plutôt derrière un mur de grillage. L'endroit est totalement bouclé, surveillé par des dizaines d'agents du Secret Service. Accès extrêmement limité. Il y a quelques journalistes des télés américaines qui font leur direct devant les grands drapeaux américains étalés sur la façade. Et c'est à l'intérieur, dans une salle quasiment vide, que Joe Biden prononcera le discours le plus important de sa carrière politique, qui est pourtant déjà longue. Un sénateur pendant 36 ans, puis vice-président pendant 8 ans, après deux tentatives ratées. Enfin, Joe Biden va pouvoir se présenter officiellement comme le candidat démocrate à la Maison-Blanche. L'ambiance pour un tel moment, et vous comprenez, très inhabituelle. En temps normal, on croiserait des milliers de militants de tout le pays. Là, personne. C'est comme si de rien n'était dans la petite ville tranquille de Wilmington. 70 000 habitants qui connaissent tous ou presque Joe Biden. Un type bien, gentil, accessible, généreux, disent-ils en cœur. C'est donc d'ici à Wilmington que Joe Biden fera principalement campagne jusqu'au 3 novembre pour une élection décidément pas comme les autres.
Xavier, ils vont dans le Delaware pour Europe 1. Et alors que la campagne pour la présidentielle bat son plein, ce nouveau coup dur pour Donald Trump, son ancien conseiller Steve Bannon a été arrêté et inculpé pour détournement de fonds destiné à la construction du mur promis par les États-Unis à la frontière avec le Mexique. Donald Trump affirme ne pas être impliqué dans cette affaire et dit ne pas avoir eu connaissance du projet de Steve Bannon. Retour en France pour l'association L214. C'est le pire élevage vu depuis plus de 10 ans. Des canards dans des bâtiments insalubres, des volailles en état de décomposition, des flots d'excréments, des rats. L'État ordonne la fermeture de l'élevage incriminé dans les Pyrénées-Atlantiques et l'évacuation des animaux. La copropriétaire, de son côté, dénonce une vidéo fausse et mensongère. Dans l'actualité politique, l'université d'été des Verts, elle se tient jusqu'à samedi soir à Pantin, en Seine-Saint-Denis. Les écologistes remontaient après leur victoire aux élections municipales et qui se projette déjà vers 2022. Et Claudia Bertrand, vous assistez à la rencontre pour Europe 1. La présidentielle est dans tous les esprits et le duel entre Yannick Jadot et Éric Piolle, le maire de Grenoble, est déjà lancé.
Oui, avant même le coup d'envoi officiel de ces journées d'été, les deux écologistes ont occupé le terrain cet après-midi. Lors d'une conférence de presse, l'eurodéputé Yannick Jadot n'y va pas par quatre chemins. Il croit en ses chances pour 2022 et veut que le candidat soit désigné rapidement.
Je suis convaincu qu'on peut battre Macron, qu'on peut battre Le Pen. Notre responsabilité, c'est de nous organiser pour gagner. On ne se laisse pas aller aux divisions internes qui, vous le savez, ont fait beaucoup de mal à l'écologie. On en est sorti, il ne faut pas y retourner.
Pas de petite phrase envers son adversaire, mais le duel a bel et bien commencé. De son côté, le maire de Grenoble, Éric Piolle, s'est affiché avec les nouveaux maires écologistes. Il prône une stratégie différente, le rassemblement à gauche.
Ce que nous avons réussi à Grenoble, collectivement, ça nous donne une voix et ça me donne une responsabilité et une voix pour travailler à ce collectif. Donc je travaille à ce collectif parce que je suis déterminé à ce que l'écologie gagne en 2022.
Julien Bayou, le secrétaire national de ELV, qui refuse d'y voir de vision de l'écologie politique qui s'affronte, prévient d'ores et déjà. C'est celui qui soutiendra le mieux les candidats au régional, qui sera le plus légitime pour aller à la présidentielle.
Et Claudia Bertram du service politique d'Europe 1. La finale de la Ligue des champions PSG-Bayern Munich, c'est dimanche. Il y aura une retransmission du match dans Paris avec 5000 spectateurs, mais les Parisiens vont devoir se passer de fan zone. La préfecture a refusé en raison de la situation sanitaire. Nicolas Nordman, adjoint à la sécurité à la mairie de Paris, était ce soir l'invité d'Europe 1.
En réalité, c'est une fausse bonne idée, je pense, la question de la fan zone. Parce que qui dit fan zone dit regroupement, dit des personnes qui veulent s'y rendre et qui ne peuvent pas, donc qui sont à l'extérieur parce que on aurait effectivement fixé des jauges maximales et donc les personnes à l'extérieur ne seraient pas couvertes par cette fan zone. Donc l'idée de la fan zone, en réalité, c'est pas une bonne idée. Ce que nous demandons, nous, ce soir et dans la perspective de dimanche, c'est que, compte tenu de cette situation très exceptionnelle de crise sanitaire, les gens, dans la mesure du possible, regardent le match chez eux, puissent éventuellement aller dans des lieux, par exemple des bars en effet, mais qui respectent les protocoles sanitaires qui ont été édictés. Et donc nous voulons au maximum éviter les rassemblements de grande ampleur.
Nicolas Nordman, adjoint à la sécurité à la mairie de Paris, invité de François Claus sur Europe 1. Et les joueurs préparent la rencontre. Ils ont repris l'entraînement aujourd'hui. Kylian Mbappé est revenu sur sa blessure qui a failli l'empêcher de jouer la Ligue des Champions.
La vérité, le soir de la blessure à Saint-Etienne, je pensais que c'était mort. J'ai pleuré toute la nuit et je me suis levé le lendemain matin en me disant je vais essayer de faire le maximum. Je me suis lancé dans un délire tout seul et surtout je voulais de l'aventure. Et je savais que, voilà, à un moment donné, l'équipe allait avoir besoin de moi, peut-être pas par ma présence physique sur le terrain, mais aussi pour apporter ma bonne humeur. J'ai jamais voulu montrer que j'étais mal, même si c'était un moment difficile. Mais voilà, le fait d'être revenu contre l'Atalanta, d'avoir aidé l'équipe à se qualifier, et aujourd'hui de pouvoir rejouer, c'était un grand plaisir.
Kylian Mbappé au micro européen de Simon Rubin et la finale de la Ligue des Champions, PSG Bayern Munich. Ce sera à suivre en intégralité sur Europe 1 dimanche à partir de 21h. Le temps.
La météo avec Cdiscount. Cet été, même en vacances, Cdiscount livre tout ce dont vous avez besoin partout où vous êtes. Profitez de votre été avec Cdiscount.
On s'intéresse à la météo de demain, Anissa, et ça souffle fort en Bretagne.
Oui, effectivement, il va falloir être prudent, Sophie, puisque jusqu'à demain matin, un épisode de vent fort touche le nord-ouest, principalement la Bretagne. Alors cet épisode de vent fort, il est associé aux grandes marées, la mer est donc houleuse en ce moment, et nous avons aussi un front froid qui arrive par l'ouest, mais il rencontre le pic de chaleur que nous avons depuis hier. Qu'est-ce que ça donne? Front froid plus pic de chaleur, ça donne des orages sur pas mal de régions en France, notamment la façade atlantique, l'Auvergne et le Grand Est demain après-midi. Dans le sud et partout ailleurs, eh bien c'est une journée plutôt estivale, agréable, avec un ciel dégagé et quelques belles éclaircies. Les températures, elles sont encore chaudes demain avec 15 à 23 degrés. Demain matin, nous aurons 21 degrés dès le début de journée à Paris. Il fait donc chaud, vous l'avez compris. Et dans l'après-midi, les températures sont de saison. Sur l'ouest de la France, avec 23 degrés à La Rochelle, 25 à Rennes et La Roche-sur-Yon, 26 à Nantes et Biarritz, 28 pour Bordeaux et Lille, 29 à Paris. Et alors là, partout ailleurs, il fait encore chaud demain, avec 31 degrés à Metz et Perpignan, 32 à Ajaccio, 33 pour Marseille et Nancy, 35 degrés à Saint-Étienne et Belfort, 36 à Lyon, 37 à Grenoble. Demain sera la dernière journée de ce pic de chaleur avant la baisse des températures pour samedi.
Bon, bah c'est noté. Merci Anissa. Il est 22h15. 22h15 sur Europe 1. À suivre, un livre pour l'été avec Stéphane Place et puis La Bonité de François Claus. Restez avec nous.
Sophie Tussaud sur Europe 1.
C'est votre rendez-vous du soir, un livre pour l'été. Comme tous les soirs, Stéphane Place nous conseille un livre à lire en collaboration avec la librairie Mola à Bordeaux. Et le coup de cœur du jour est un roman américain. Son titre en français est « Ce que l'on sème ».
Et comme pour une pièce de théâtre, la trentaine de personnages de ce roman figurent sur une liste en ouverture du livre. Et ce n'est pas un luxe, c'est même très utile pour suivre cette fantastique fresque familiale et à travers elle, 6 décennies de l'histoire américaine. Des années 50, de la lutte pour les droits civiques, à 2009, la première année de la présidence de Barack Obama. Dans « Ce que l'on sème », l'auteur Regina Porter choisit de nous faire traverser cette période en suivant les trajectoires de deux familles, l'une blanche, l'autre noire, des trajectoires qui vont se croiser.
On suit deux familles. La première est celle d'un patriarche américain d'origine irlandaise. Et la seconde est celle d'une afro-américaine du sud des États-Unis qui s'installe dans le Bronx avec son mari pour fuir un événement tragique de son passé. Et on va voir de quelle façon la vie de ces deux familles va s'entrecroiser par le biais du mariage. La matriarche a une fille qui est une universitaire spécialiste de Shakespeare et l'avocat d'origine irlandaise à un fils spécialiste de Joyce. Leurs deux enfants vont se marier. Il n'y a pas vraiment d'interaction entre ces deux familles jusqu'à ce mariage. Et on va suivre la trajectoire de leur vie ainsi que celle de leurs amants au fil des années.
Alors c'est vrai que la construction de ce roman répond à une architecture particulière. Ce n'est pas un récit linéaire. Une lecture que vous recommande vivement Sixtine de Beaufort, libraire chez Mola.
À travers ces deux familles, c'est vraiment toute l'histoire des États-Unis sur ces années-là qui nous est racontée. La lutte pour les droits civiques, la guerre du Vietnam, les années Obama qui arrivent, à travers donc des grands événements, mais aussi à travers les vies de chacun de ces personnages et leurs émois familiaux, leurs émois amoureux. Ce personnage qui rentre de la guerre du Vietnam, qui n'arrive pas à se reconnecter avec ses enfants, cet homme-là qui se fait abattre dans une voiture par le Ku Klux Klan. En fait, c'est un récit qui couvre plus de 60 années, mais pas de manière linéaire. C'est-à-dire qu'on passe d'un chapitre en 1968 à un chapitre en 1947 pour revenir ensuite en 2008. Malgré cela, on suit très bien l'évolution des personnages qu'on retrouve finalement de chapitre en chapitre. En fait, ces deux familles, elles sont liées par l'histoire, par leur destin, alors même qu'elles n'ont aucun lien de sang.
Ce que l'on sème de Regina Porter, un roman unanimement salué par la critique, nous permet d'explorer finalement les changements profonds qu'ont connus les États-Unis durant plus d'un demi-siècle.
Merci Stéphane Place. Autre rendez-vous de la soirée, La Bonne Idée. Tous les soirs, François Claus nous dévoile une idée innovante. Et ce soir, on s'intéresse à une appli solidaire qui met en relation les volontaires et les personnes qui sont en difficulté dans la rue.
Bonsoir Claire Duzabot.
Bonsoir.
On voulait vous adresser bien notre coup de cœur, notre coup de chapeau du soir sur Europe 1. Vous qui êtes la directrice de communication de cette belle application qui s'appelle Entourage, entourage qui met en relation les habitants d'un quartier avec des personnes en difficulté, SDF, et également avec les associations pour coordonner toutes les actions solidaires. Et vous avez eu un rôle absolument déterminant pendant toute la période de confinement avec plus de 10 000 initiatives solidaires. Racontez-nous un petit peu, Claire Duzabo, comment ça fonctionne.
Oui, bien sûr. Donc, l'application Entourage, elle est née, elle, il y a 4 ans environ. D'un constat assez simple, c'est que les voisins, les gens comme vous et moi, les auditeurs, souvent on croise des personnes en grande précarité, donc des sans-abri, des personnes sans domicile, et on se demande souvent ce que nous on peut faire à notre échelle. Donc il y a ceux les plus motivés qui peuvent devenir bénévoles, mais le tout à chacun, souvent il se demande quelle est sa place, comment bien agir, puis il a plein de questions et il ne sait pas tellement par où commenter. Et de l'autre côté, quand on tend le micro à ces personnes en grande précarité, elles nous disent que le pire à vivre, c'est le sentiment de solitude, de n'avoir personne sur qui compter. Et cette application, justement, c'est une sorte de boîte à outils, une sorte de kit qu'on peut avoir dans la poche. Il permet d'avoir des conseils sur quelle est la bonne posture à adopter, des gestes simples qu'on peut faire. Donc, par exemple, nous, on dit souvent qu'il faut s'agenouiller, se mettre à la hauteur de la personne, la vouvoyer, ne pas infliger son aide et surtout lui demander de quoi elle a besoin pour ne pas infliger... une aide qui serait trop descendante, trop verticale.
Oui, qui viendrait d'en haut et qui s'imposerait. Alors, ce qui m'a étonné, surpris, c'est que énormément de personnes en difficulté dans la rue, des SDF, ont un smartphone avec eux.
Exactement. Oui, alors ça, c'est un chiffre qu'on connaît peu. Il y a une étude Solinium, là, sur la précarité connectée, qui est sortie, qui montre que 71% des personnes sans domicile possèdent un smartphone, donc un téléphone avec Internet. Alors souvent, pour recharger, c'est toujours un peu compliqué. Ils se débrouillent dans les centres d'accueil, aux arrêts de bus aussi. Mais pour eux, c'est un véritable moyen de communication pour garder le contact aussi avec l'extérieur, pour passer le temps. Il y a beaucoup qui jouent à des jeux en ligne. Et puis pour aussi avoir une identité numérique qui pourrait leur faire oublier aussi leur quotidien un peu dur.
Et une identité numérique qui est une identité dont ils ont tant besoin. Ça vous a permis, Entourage, de vivre des scènes extrêmement émouvantes, fortes en émotion. Vous pouvez nous en raconter, Claire, une ou deux qui vous ont marqué pendant le confinement ?
Oui, bien sûr. Alors justement, l'application, elle a connu un boom incroyable pendant le confinement parce qu'on était tous impuissants chez nous en train de penser à ceux qui étaient confinés dehors. Et donc, on a eu énormément de belles actions. On a eu l'émergence d'un programme qui s'appelle Les Bonnes Ondes où les voisins ont pu entourer par téléphone des personnes sans domicile et les appeler tous les jours pour prendre de leurs nouvelles, transmettre les bons gestes barrières parce que souvent, ils n'ont pas accès à l'information. Et puis, s'assurer que le moral allait bien. Il y a, je pense par exemple, à Samia qui a trouvé de l'aide administrative pour rédiger des courriers, par exemple, et puis faire avancer ses démarches. Il y a un couple qui a reçu une tente pour dormir un peu à l'abri. Et puis, il y a plein de petites initiatives très belles aussi du quotidien qui, par exemple, fêter un anniversaire, juste aller discuter, prendre un café avec quelqu'un.
Aller chercher un coiffeur pour couper les cheveux, apporter de l'eau pour amener de l'hygiène.
Exactement, liquides d'hygiène qui ont été beaucoup distribués, des autorisations de sortie aussi pendant le confinement. Le coiffeur, en fait, dès qu'on a une compétence, on peut la proposer sur cette application. Si on est avocat, si on est coiffeur, si on est n'importe quoi, on peut dire, moi je mets mes compétences au service de ceux qui n'ont plus rien. Et eux, comme ils ont souvent un smartphone, ils peuvent répondre directement et rentrer en contact avec nous dans notre quartier, puisque l'idée, c'est que ce soit vraiment local.
Et nous, journalistes, de parler d'eux, dans des termes qui ne sont pas forcément ceux qui sont ceux des a priori qu'on a trop souvent par rapport à ce monde à nos portes et qu'on ne regarde pas souvent. Et surtout en été, pendant les périodes de canicule où ça a été extrêmement compliqué. C'est pour ça qu'on voulait ce soir vous rendre hommage sur Europe 1. C'était la belle idée du soir. Merci. Claire Duzébao. Je rappelle l'application Entourage.
C'était la bonne idée avec François Claus. Restez avec nous dans quelques instants. Les unes de la presse de demain, mais avant, on écoute Physical de Dua Lipa. À la une de vos journaux demain, la rentrée des classes. À la une de Ouest-France, Blanquer exclut un report. Le ministre de l'Éducation a précisé ce soir les mesures sanitaires qui devront être appliquées avec notamment l'obligation du port du masque à partir de 11 ans. Question sur une épidémie qui progresse sans s'aggraver, titre Le Figaro. La circulation du virus s'est accélérée dans la population cet été sans entraîner de de hausse de cas graves, mais cet apparent paradoxe ne doit pas faire baisser la vigilance. Les Échos s'intéressent aux impôts. L'exécutif garde son cap pro-entreprise. Bercy maintient pour 2021 la baisse de l'impôt sur les sociétés promise avant la crise. Cela s'ajoute à la réduction de 10 milliards des impôts de production. Pour l'opinion, culture, la peur du vide, le risque d'une seconde vague de Covid-19 et le manque de perspectives sur les règles sanitaires laissent un secteur entier dans l'incertitude. Plus de 600 000 emplois sont en jeu. Pour Libération, c'est un visage, celui de Joe Biden. Go Biden, titre le quotidien. Le centriste a été présenté lors de la convention qui s'est achevée comme l'homme providentiel des démocrates pour battre Donald Trump. La Croix, Maghreb, partir à tout prix, ne croyant plus à l'avenir de leur pays, de nombreux Algériens et Tunisiens continuent de traverser la Méditerranée malgré les drames et les dangers. Pour le Dauphiné, c'est un feu, le feu au cœur de Chamonix. Un violent et spectaculaire sinistre s'est déclaré dans le centre-ville. Plus de 80 sapeurs-pompiers venus de tout le département ont été mobilisés. Fort heureusement, il n'y a pas de blessés graves, mais plusieurs personnes ont été incommodées par la fumée. Et puis l'humanité choisit de parler football, mais pas football côté terrain, du football social sur la Ligue des Champions, le peuple du foot sur la touche. Chaîne payante, prix des billets, l'envolée des tarifs éloigne de plus en plus les milieux populaires du ballon rond. Voilà pour les titres que vous retrouverez demain dans les kiosques. Il est 22h30 à présent sur Europe 1 et c'est l'heure de la Libre Antenne. Vous retrouvez Sabine Marin. Bonsoir Sabine.
Quelle ponctualité. Bonsoir à vous.
Sophie. À la seconde près.
N'est-ce pas? Rendez-vous à 23h.
À tout à l'heure.
Au revoir.